vision d'histoire.
Chers amis de Radio Galilée, bonjour. Au micro, Martine Dumais. Il me fait plaisir de vous retrouver comme à chaque semaine. Aujourd'hui, nous recevons avec grand plaisir M. Gaston Deschênes, historien, retraité de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec. Bonjour, M. Deschênes.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on va poursuivre, j'ai envie de dire, une conversation qu'on a déjà entreprise dans des émissions précédentes autour de la Côte-du-Sud et de la question de leur lien avec des habitants de la Côte-du-Sud avec les rebelles américains. Vous avez fait publier il y a quelque temps un pays rebelle, la Côte-du-Sud et la guerre de l'indépendance américaine aux éditions Septentrion. C'est un ouvrage qui n'est pas votre premier sur la Côte-du-Sud. Vous avez un intérêt, je dirais, ardent pour la question de la Côte-du-Sud. Vous êtes vous-même, je ne me trompe pas, originaire de la Côte-du-Sud.
Saint-Jean-Port-Joli.
Saint-Jean-Port-Joli. Et vous avez beaucoup produit sur l'histoire de cette région-là. Au-delà de cette appartenance géographique très forte, comment vous expliquez votre amour de l'histoire de la Côte-du-Sud?
Je l'explique parce que y a beaucoup de trous dans l'histoire et puis il faut combler ces trous-là. Il y a beaucoup d'événements qu'on connaît mal, d'épisodes d'histoire, de grands personnages. Alors, je trouve tout à fait naturel. C'est de la curiosité, en fait, hein. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. C'est de la curiosité pour l'histoire de ma région.
Et cette curiosité qui vous amène à faire des recherches a produit différents ouvrages, articles, conférences. Et cette question de l'indépendance américaine en lien avec la Côte-du-Sud, sur laquelle vous avez produit au moins deux ouvrages, pourquoi vous êtes intéressé de façon plus précise à cette thématique-là?
Bien, j'ai réalisé en faisant des recherches sur Saint-Jean-Port-Joli il y a déjà près de 50 ans qu'il y avait des périodes, des épisodes méconnus, en particulier la guerre de la conquête, la guerre d'indépendance américaine et les patriotes. Et j'ai travaillé sur ces trois sujets-là, donc j'ai fait l'année des Anglais, qui est donc la période de la guerre de conquête. Et quand on a fait la synthèse d'histoire de la Côte-du-Sud, dans la fin 80, milieu 80, début 90, j'ai réalisé que c'était général sur la Côte-du-Sud, ces événements-là étaient méconnus. Les histoires de paroisses qui existaient à l'époque parlaient peu de ça. Et je m'étais fixé comme objectif, vers la fin des années 80, de boucher deux autres trous. Alors, l'année 1775-1776 pour l'indépendance américaine et 1837-1838 que j'ai fait il y a quelques années. Maintenant, je fais le troisième trou que j'essaie de boucher.
Cet ouvrage nous permet, il me semble, d'avoir une vision un petit peu différente de l'invasion américaine. Je dirais que dans mes cours d'histoire, j'avais appris de cette question de la menace américaine sur donc le Québec, etc., et les Canadiens français. Mais là, vous nous donnez une image complètement autre. J'ai envie de dire, c'est un revers de médaille, d'une certaine façon.
Oui, c'est un revers de médaille, c'est différent. On disait traditionnellement que les Canadiens étaient restés neutres, et sauf une petite minorité, étaient restés neutres et avaient laissé les Anglais se battre entre eux, ceux d'Angleterre et ceux des États-Unis. Ils ne se sont pas beaucoup mêlés de ça. Il y a aussi le fait que l'histoire de cette époque a été beaucoup basée sur des témoignages des gens de Québec, de Montréal, de Trois-Rivières, des journaux personnels, des chroniques, et peu des régions périphériques, si on veut. Alors, quand on regarde l'histoire, moi, je voyais, j'avais des éléments d'histoire sur la Côte-du-Sud et Saint-Jean-Port-Joli, puis je me disais, voyons, ça se peut pas. Ici, les gens ont l'air de s'être engagés beaucoup. Alors, ça correspondait pas. Et j'ai la réponse, là, c'est que ils ont eu un comportement assez différent de d'autres régions. Et c'est pas la neutralité qui a prévalu. Quelqu'un a appelé ça la neutralité participative. Alors, voilà. Ils sont neutres parce qu'ils prennent pas les armes, mais la sympathie est là et on collabore de la manière qu'on peut.
Dans votre ouvrage, vous parlez encore une fois de la Côte-du-Sud. Pour les gens qui vous suivent et qui vous lisent, ils savent très bien la délimitation géographique. Pour ceux qui n'ont pas eu cette chance, pourriez-vous nous faire un portrait de la Côte-du-Sud et préciser la période chronologique qui va nous intéresser?
Ben, la Côte-du-Sud, c'est la région qui s'étend entre Lévis et Rivière-du-Loup, en gros. C'est une région qui, aujourd'hui, est partagée entre deux régions administratives, deux régions touristiques. En fait, c'est la même chose. Donc, la Chaudière-Appalaches qui va jusqu'à Saint-Roch-des-Aunais et Bas-Saint-Laurent qui commence à la Pocatière. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la Côte-du-Sud, on en parle moins parce que quand on divise, quand on cherche la route des fromages, les pistes cyclistes ou n'importe quoi, on va toujours diviser par Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent et non par cette région qui, au 19e siècle, était bien marquée parce que elle représentait le bout du pays. À partir de Lévis, en descendant jusqu'à Rivière-du-Loup, il y avait du monde. Après, il y avait à peu près personne. Donc, ça correspondait à une région là assez bien définie. La période, bien, c'est 1775-1776. 1775, c'est le moment où les rebelles américains, les gens des 13 colonies, ont formé une armée dirigée par Washington et ont voulu expulser les Britanniques de la province de Québec, qui aurait pu être leur 14e colonie, possiblement. Alors, ils sont venus et 1776, ben, c'est la fin de cette expédition-là, de cette tentative. Alors, c'est la période. Sauf que, moi, c'était mon objectif, mais en cours de route, là, j'ai réalisé que ça se poursuivait parce que j'avais des gens de la Côte-du-Sud, on en reparlera, qui sont allés finir la guerre avec les Américains jusqu'en 1783. C'est pour ça que mon livre est en deux parties. 75-76 d'abord, et ensuite, les soldats, ce que j'ai appelé les soldats de la Révolution, ceux qui sont allés faire la guerre avec les Américains.
Dans votre ouvrage, vous employez le terme « canadien », mais dans un contexte bien différent de celui qu'on pourrait employer aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Après la conquête, il n'y a plus de Canada dans la toponymie. Maintenant, c'est la province de Québec qui est, en gros, la vallée du Saint-Laurent. Donc, la Nouvelle-France s'est réduite à la province de Québec. Mais le terme « québécois » n'a jamais pris sa place. On a continué d'appeler les gens de la province de Québec des Canadiens. C'est un peu comme aujourd'hui, vous allez me dire, mais on a continué d'appeler les gens des Canadiens, même s'il n'y avait plus de Canada.
En exergue de votre ouvrage, vous citez Robert de Roquebrune dans un extrait de l'Ordre de 1934, et donc vous écrivez « Un regret leur était peut-être venu. Après tout, ils avaient porté les armes contre leur pays. Au Canada, on les considéra comme des réprouvés. Mais ils avaient été victimes d'une noble illusion et s'était imaginé un peu naïvement que les Américains allaient s'emparer du Canada pour donner la liberté aux Canadiens. Ce grand mot de liberté les avait enivrés. »
Ouais. On a peu de textes d'informations sur ce que pensaient vraiment les Canadiens à l'époque, ceux qui étaient sympathiques aux Américains, en particulier les miens, là, ceux de la Côte-du-Sud. Mais c'est clair qu'il y avait un sentiment, une sympathie pour ce mouvement révolutionnaire américain. On a voulu y participer, ou du moins ne pas s'y opposer. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Maintenant, qu'est-ce qu'ils voyaient après? Ça, c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse. La liberté, elle apparaît dans certains textes, très rares textes, là, de l'époque, dont les rapports d'espionnage de Clément Gosselin, dont on parlera plus tard. Et il parle de liberté, il parle de tyrannie, ici. Alors, on voit que ces idées-là, mais l'éducation politique de ces gens-là était très mince, hein. Ils n'avaient pas de parlement, donc ils participaient pas à des élections, ils étaient analphabètes pour une bonne partie. Donc, les Américains, je les appelle les Américains ou les Bostonais ou les rebelles, comme vous voulez, mais le Congrès qui existait à l'époque a envoyé des lettres aux Canadiens, et puis ils parlaient à un moment donné de Montesquieu, les idées politiques de Montesquieu. Et là, il y a quelqu'un qui s'est moqué en disant « Ouais, Montesquieu, il n'y a pas beaucoup de Canadiens à l'époque qui connaissaient Montesquieu, qui connaissaient ses idées. Peut-être quelques personnes sur la Côte-du-Sud, ça m'étonnerait beaucoup. »
Gaston Deschênes, les événements dont vous parlez dans votre ouvrage et dans l'émission ont marqué l'imaginaire, vous en rendez compte, et vous citez notamment à la page 48 de votre ouvrage une chanson qui aurait été composée à cette époque-là. Donc, je vais juste citer la première strophe. « En Canada est arrivé une chose à remarquer. Les Canadiens vivaient tranquilles. Les bastonnets ont décidé de les soumettre à leur contrée. »
Oui. Ben eux, ils disent de les soumettre. Vous savez, c'est un point de vue, hein. C'est un point de vue loyaliste, si on veut. Mais il y a eu récemment un ouvrage, ben ça fait déjà quasiment 10 ans, là, un ouvrage dénommé Anderson sur ces événements-là. Et lui, il voit ça d'une façon tout à fait différente. Pour lui, cette guerre-là, c'est la première guerre de libération à laquelle participent les États-Unis. Et pour lui, il voit cette guerre-là comme une guerre de libération, de libérer les Canadiens de l'emprise des Britanniques. Alors, c'est différent de l'esprit que vous avez là. Et ce qui est intéressant, c'est que cette chanson, là, qui est 1, 2, 5 couplets, se termine par Montgomery qui a essayé de prendre Québec et il a trouvé son tombeau. Ça s'arrête là. Je pense que cette chanson-là est bien typique de la perception que beaucoup de gens ont de ces événements-là. C'est que les Américains sont arrivés ici, ils ont essayé de prendre Québec, ils ont échoué, fin de l'histoire. Alors que c'est beaucoup plus compliqué parce que après la défaite de décembre 75, 31 décembre, ils sont restés ici. Ils ont assiégé la ville de Québec, ils sont restés autour de la ville et pendant 6 mois, jusqu'au mois de mai, on a de la misère à se représenter ça aujourd'hui, qu'il ne restait que la ville et même que la vieille ville de Québec, parce que les Américains, encore là, j'appelle les Américains, là, excusez-moi, mais ça vient, c'est ce qui vient tout seul, on se comprend, les Bostonnais, c'était pas encore des Américains, mais ces insurgés-là qui arrivaient ici étaient établis à Lévis, hein, de l'autre bord du fleuve, sur le chemin Hollande, sur la ferme Hollande, c'est pas mal en ville, ils contrôlaient l'hôpital général de Québec, qui est pas mal en ville, puis il y avait des gens dans le faubourg Saint-Roch. Alors, pendant 6 mois, il ne restait que la ville de Québec. Alors, c'est plus compliqué que ce que représente cette chanson-là.
Et c'est intéressant parce que quand on s'est parlé avant l'émission, c'est que j'avais complètement oublié cet épisode d'occupation du territoire par les Bostonnais, comme vous dites. Juste pour revenir pour nos auditeurs et auditrices qui sont moins familiers, rappelez que cette question de la guerre d'indépendance des 13 colonies pour le Canada a été précédée par la conquête et l'acte de Québec qui ont quand même leur importance là dans les choses.
Oui, mais la conquête, c'est sûr, les Anglais ont gagné, mais ça leur a coûté cher. Et pour se refaire, ils ont imposé des taxes aux colonies, aux 13 colonies, hein, qui s'étendaient là, du Massachusetts jusqu'à la Géorgie. Les 13 colonies étaient choquées de ça, parce que pour eux, c'était qu'ils étaient taxés sans être représentés. Hein. Et le mot d'ordre est devenu « no taxation without representation ». Si vous voulez nous taxer, il faudrait être représenté, on ne l'est pas. Et là, évidemment, je ne peux pas vous faire toute l'histoire de la genèse de la Révolution américaine, mais les choses se sont envenimées, réaction aux taxes, le Boston Tea Party, on a jeté des cargaisons de thé à l'eau, et la réaction de la Grande-Bretagne, ils ferment le port de Boston, suspendent la constitution de Boston, et les colonies se rassemblent en congrès, les représentants, et assez rapidement, ils se créent une armée, et ils décident de venir, préventivement, si on veut, venir s'installer, venir prendre la ville de Québec. Ils viennent par deux chemins. Arnold descend par la rivière Chaudière. Montgomery vient par la rivière Richelieu. Il est bloqué au Fort Saint-Jean. Il réussit à se défaire du Fort Saint-Jean et prend Montréal, prend Trois-Rivières, s'en vient à Québec. Tout ça se déroule durant l'automne 1775 et échoue. Comme j'ai dit tantôt, le 31 décembre 75, c'est l'échec de la prise de Québec. Pourquoi? Jacques Castonguay, qui a écrit sur l'histoire du fort de Saint-Jean, disait que c'est le siège du fort de Saint-Jean qui a sauvé la colonie. Parce qu'il y a eu beaucoup de résistance là pendant quelques semaines. Et si Montgomery avait pas été retardé, s'il avait pu se présenter à Québec plus tôt qu'en décembre, plus tôt, il aurait peut-être réussi à prendre Québec.
On sait qu'en 1774, les Britanniques avaient accordé l'acte de Québec.
Oui.
Est-ce qu'ils sentaient qu'ils pouvaient avoir des réactions du côté des 13 colonies? Est-ce qu'il y avait un lien avec ça ou si c'était pour calmer les esprits ici plutôt?
Oui, c'était beaucoup pour calmer. Il fallait donner satisfaction, du moins aux élites de la société. Alors, dans l'acte de Québec, on reconnaît l'exercice de la religion catholique, donc ce qui plaît au clergé, ce qui plaît à l'évêque de Québec. On reconnaît le code civil français, ce qui plaît au seigneur, ça maintient le régime seigneurial. On accorde un conseil législatif qui est pas très représentatif parce qu'il n'est pas élu, mais où on peut nommer des notables. Et c'est ce qui est arrivé. On a nommé souvent des seigneurs, des notables à cet endroit, à ce conseil-là. Pour les élites, c'est intéressant. Pour les habitants, ça ne l'est pas trop. Et c'est là-dessus que les Américains essayaient de tabler en demandant l'aide, l'assistance, la collaboration des Canadiens. Il leur disait, vous voyez, on vous impose la religion catholique, donc vous avez des dîmes, on vous impose le régime seigneurial, vous allez payer des rentes, puis on vous donne pas de parlement. Donc, vous serez comme nous, pas de représentation, et vous allez devoir vivre dans ce régime-là. Ce qui a choqué beaucoup les Américains, ou les Bostonais, comme toujours, c'est le fait qu'on a agrandi la province de Québec jusqu'au Grand Lac, le bassin des Grands Lacs, ce qui a bloqué, théoriquement, là, ce qui bloquait le développement, l'expansion vers l'ouest des colonies, en particulier la Virginie. Et ça, ça a beaucoup déplu aux congrès qui a réagi justement en se disant on va aller chasser les Britanniques de la province de Québec.
Les autorités britanniques qui étaient ici à ce moment-là, face à cette arrivée des Bostonnais, pour eux autres, ça devait être simple et clair. On devait réagir, prendre les armes pour réagir. Mais est-ce que la population, le choix était aussi clair?
Non, sûrement pas. D'ailleurs, ça s'est fait démontrer. Carleton a voulu réunir des volontaires. Il a refait la milice. Il a voulu recruter des gens. Il a envoyé des émissaires à différents endroits, dont dans la région ici, à l'île d'Orléans, sur la côte du sud, jusqu'à Kamouraska. À l'île d'Orléans, ils ont été reçus à coups de bâton. Et à la côte du sud, ils auraient ramené seulement une quinzaine de volontaires, ce qui est vraiment infime. Alors, ils voulaient avoir, je sais pas combien, je pense que c'est 6 000 volontaires. Il y en a eu à peine quelques centaines. Et il avait demandé... j'ai oublié de le mentionner, il avait demandé à l'évêque de Québec de l'aider à pas changer la mentalité, mais à amener les habitants à collaborer avec le gouvernement. Et l'évêque avait fait un mandement dans lequel il disait, ben, vous voyez, les Anglais nous ont bien traités, ensuite vous avez fait prêter un serment et vous devez soumission à l'autorité. Donc, si vous voulez aider M. Carleton à défendre la province, ce serait bien. Et ça n'a pas eu beaucoup de succès.
Gaston Deschênes, quand arrive cette question de savoir si on va collaborer ou si on va s'opposer à cette arrivée de Bostonnais, il y a un événement qui est très important sur lequel on ne sait pas beaucoup de choses, mais vous avez travaillé le sujet, l'Assemblée de Lévis.
Oui, l'Assemblée de Lévis, dans un rapport qui a été fait subséquemment, on parle d'une assemblée séditieuse à Lévis. C'est que le seigneur de Sainte-Marie de Beauce, seigneur Taschereau, a voulu, évidemment, défendre sa seigneurie. Hein. Alors, il a essayé de recruter des gens pour aller s'opposer à l'éventuelle arrivée d'Arnold. Alors, ici, on a rassemblé à Pointe-Lévis des gens de plusieurs paroisses. Il y en est venu de la Côte-du-Sud jusque de Berthier. Hein, des gens qui sont allés à cette assemblée-là, qui avaient pour but de recruter des volontaires, mais qui a complètement viré de bord. C'est-à-dire que les gens qui étaient là, on dit à Taschereau et à Caldwell et à un autre qui était là, il n'est pas question, je résume leurs propos, là, je ne peux pas les citer, il n'est pas question qu'on aille là. Et non seulement on n'ira pas, mais ils ont pris Taschereau, ils l'ont conduit chez lui, et on dit, on va plutôt préparer l'arrivée, favoriser l'arrivée des Bostonnais dans la région. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis à... Ils ont bloqué la côte du Sud, ils ont établi des postes de garde le long du fleuve. À Saint-Michel, par exemple, ils ont pris le presbytère, qui est au bord du fleuve, comme corps de garde. Ils ont établi un système de feu, hein, pour se communiquer entre eux. On a établi des postes de garde comme ça dans presque toutes les paroisses le long de la côte du Sud. On a bloqué la côte du Sud pour empêcher les Britanniques de traverser. Et les Britanniques, de leur côté, ont saisi toutes les embarcations qu'ils ont pu pour empêcher les Bostonnais de traverser. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment de la sédition. La sédition, c'est une révolte contre l'autorité. C'est vraiment de la sédition qui s'est exprimée à ce moment-là.
Vous venez d'évoquer le seigneur Taschereau. Vous mentionnez aussi dans votre ouvrage le seigneur Juchereau du Chesnay.
Oui, le seigneur Juchereau du Chesnay, c'est le seigneur de Saint-Roch. En fait, il vivait à Beauport, mais il possédait Saint-Roch. Et lui, il est parmi ceux qui sont allés s'opposer à l'invasion du côté de la rivière Richelieu. Il est allé au Fort Saint-Jean. Il a participé à la défense du Fort Saint-Jean, qui s'est terminée par une victoire des Bostonnais. Et le seigneur Juchereau a été fait prisonnier et a été amené, il a passé, je pense, 18 mois en prison du côté des États-Unis, en même temps que le seigneur de Berthier, Rigaudville, qui a été mis en prison aussi, lui qui est mort en prison à Philadelphie, je crois. Donc, les seigneurs, on voit qu'ils ont été... ils se sont mobilisés plus facilement.
Vous parlez aussi de la question des curés, donc du clergé dans ce contexte-là, et vous écrivez « À Saint-Michel, le jour de la fête patronale au mois de septembre, un jésuite prêche en insistant sur l'obéissance et la loyauté. » On vient de comprendre le contexte. Il est interrompu par un paroissien qui crie « C'est trop longtemps prêché pour les Anglais. » Dès le 1er octobre, Mgr Briand écrit au curé Lagroix pour savoir qui est l'insolent. Et là, vous citez la lettre. « Il n'a pas manqué en cela à son roi, à son serment et à la subordination, mais encore au respect dû au temple du Seigneur, où nul laïc ne doit parler, au respect dû à la parole de Dieu et au ministre qui l'annonce. » Donc, on voit, j'ai envie de dire, que c'était remuant aussi, même dans les assemblées religieuses.
Oui. Oui, ça, c'est un beau cas. On croit que c'est Pierre Cadrin, mais on n'a jamais su officiellement qui il était. Et le Monseigneur l'évêque a mis en pratique sa menace. Et l'église de Saint-Michel et celle de Beaumont, qui étaient desservies par le même curé, ont été fermées pendant quelques semaines. Et il n'y a pas eu aucun acte d'enregistré. Là, on voit très bien par le trou dans les registres. Pendant quelques semaines, ça a été... Et on a eu le phénomène aussi de sentiment de révolte qui s'est exprimé à Saint-Thomas, c'est-à-dire à Montmagny. Le curé Maison-Basse dit « J'ai beau les instruire, les exhorter, les admonester, etc. » Ils sont rebelles. Et il a ajouté dans sa lettre que les femmes sont du même sentiment que les hommes. Ça veut dire qu'on avait des femmes qui ne manquaient pas d'exprimer leur opinion. Et c'est là que l'abbé Maison-Basse dit à son évêque, écoutez, il faudrait peut-être que vous fassiez quelque chose là pour les, en fait, essayer de les rendre un peu plus dociles. D'où la lettre de Mgr Briand qui dit à Maison-Basse, là, vous mariez pas les gens à moins qu'ils aient exprimé des regrets. Vous autorisez pas des gens qui sont de sentiments rebelles d'agir comme témoins des mariages, d'agir comme parrains à des baptêmes. Et il dit, s'il y a des rebelles qui meurent, vous allez assister à leur inhumation, mais sans prière. En tout cas, c'était très sérieux. L'indocilité, probablement, était telle qu'elle demandait des réactions aussi forte de la part de l'évêque. Si l'évêque réagit fortement, ça veut dire que les gens, c'était pas seulement quelques cas, là. Il y avait vraiment beaucoup de gens, donc, qui étaient sympathiques, comme je le disais tantôt, aux Bostonnais.
Et on voit vraiment un climat très volatile, parce que vous dites que pendant le siège de Québec en 1775-1776, il y a même un curé qui est expulsé de son presbytère.
Oui, on donne l'expulsion, c'est le curé de Rivière-Ouelle, le curé Parent, qui était plutôt favorable aux autorités britanniques. On donne l'événement, on situe l'événement en 1776, c'est pas certain. Il a peut-être eu lieu dans les années subséquentes, jusqu'en 80, c'est pas trop certain, mais ce qui est sûr, c'est qu'à cette époque-là, là, dans cette... dans cette mouvance de l'insurrection américaine, ce curé-là a été expulsé de son presbytère. On l'aurait abandonné sur la route à Saint-Jean-Port-Joli.
Et on voit aussi par la suite dans les pages qui sont écrites qu'il y a aussi des gens, des autorités religieuses ou plus, je dirais, politiques, qui prennent fait et partie pour une réaction royaliste.
Oui. Alors, il y avait des gens dans la région qui étaient, je dis moi que le sentiment général était sympathique aux Bostonnais, mais il y avait quand même des gens qui étaient sympathiques à l'autorité britannique. Entre autres, le curé Porlier de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, qui était très impliqué politiquement là, dans ces débats-là. Et il y avait, à l'automne 75, durant l'hiver 75-76, l'abbé Bailly de Messin, qui était un prêtre du séminaire, qui était incidemment le précepteur des enfants de Carleton, et qui circulait, on le trouve à différents endroits dans la région jusqu'au printemps 76, et le curé Porlier dit que l'abbé Bailly de Messin circulait et excitait les royalistes, c'est-à-dire qu'il essayait de soulever une réaction, ce qui nous démontre encore que le sentiment royaliste n'était pas majoritaire, puisqu'il fallait l'attiser, et on a réussi, au printemps 76, à faire quelque chose. Carleton a donné instruction au seigneur de l'île aux Grues, Liénard de Beaujeu, de prendre la tête de ces royalistes de la région, surtout de l'Apocatière. Et il a organisé une expédition en mars avec des gens de l'Apocatière. Ils ont marché jusqu'à Montmagny. De Montmagny, ils ont envoyé une avant-garde à Saint-Pierre-du-Sud. Et cette avant-garde-là, Saint-Pierre-du-Sud, dont les mouvements étaient bien connus par les rebelles, évidemment jusqu'à Lévis, cette avant-garde a été attaquée par des soldats bostonnais, avec des gens de la région de Bellechasse surtout. Et le groupe a été défait. Il y a eu 3 morts du côté royaliste, il y a eu une dizaine de blessés et des prisonniers, dont l'abbé Bailly de Messin, qui aurait été blessé. Ça veut dire qu'il se cachait pas en arrière. Visiblement, il était plutôt engagé. Il y a un historien qui a dit qu'il agissait comme médiateur entre les deux, mais bon, je pense qu'il n'y a pas de témoin possible de ça. Ça a été très important, cette bataille de Saint-Pierre. Le 25 mars 1776, c'était la réaction ultime des royalistes, mais c'était la dernière.
Gaston Deschênes, il va falloir continuer la semaine prochaine cette épopée assez extraordinaire. Je rappelle que vous êtes l'auteur aux éditions du Septentrion, Un pays rebelle, la côte du Sud et la guerre de l'indépendance américaine. Je vous remercie beaucoup pour votre visite.
Merci.
Je remercie Thierry Boutin et Yannick Caron pour la mise en onde. Revenez-nous la semaine prochaine pour une deuxième émission sur la révolution américaine et les rebelles de la côte du Sud avec l'historien Gaston Deschênes.